CFM Villefranche, le mag.
Le magazine d'actualité, de ce mercredi, avec en studio, comme annoncé, il est là, il est arrivé, Jean-Claude Issali. Bonjour Jean-Claude Issali.
Bonjour.
Jean-Claude Issali, membre bénévole, membre actif de la Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, délégation territoriale Aveyron, protection des oiseaux, mais plus largement de la nature et de la biodiversité. On va s'accorder l'espace d'un magazine d'actualité pour parler des actions menées par la Ligue pour la protection des oiseaux, mais on s'arrête un petit peu sur vous. Vous êtes rentré en contact avec la nature, vous aviez une dizaine d'années, je crois savoir.
Effectivement, c'est on m'a offert des jumelles, mes parents m'ont offert des jumelles pour moi la rentrée en sixième. Et je sais pas d'où j'avais attrapé ça, mais j'étais déjà très très intéressé par les oiseaux que je voyais autour de la maison et sur la ferme, puisque je suis né dans une exploitation agricole. Voilà, mais ça m'a toujours suivi. Et pendant mes études à Toulouse, je me suis dit, je veux vraiment me consacrer à la protection de la nature et des oiseaux. Et donc, dès que j'ai travaillé en 81, j'ai adhéré à la LPO. À l'époque, j'ai adhéré au FIR, au Fonds d'intervention pour les rapaces. Et voilà, j'ai fait la connaissance d'autres naturalistes. Et depuis, j'œuvre au sein de la LPO. Voilà.
Spécialiste notamment des rapaces sur le territoire.
Je suis particulièrement passionné par les rapaces.
Ouais. C'est quoi l'équipement de l'observateur? Les jumelles, on l'a dit, une boussole, une carte IGN, une fusée de détresse, une couverture de survie. Vous avez, pour avoir discuté un peu avec vous, une connaissance mais assez hallucinante du territoire. On sent que vous avez un peu déambulé. Hein.
Oui, effectivement. Alors, je dirais chacun peut pratiquer l'ornithologie chez lui et à diverses, je dirais, dimensions et à divers niveaux. Bon, on peut déjà tout simplement s'intéresser à ce qu'on voit chez soi depuis son balcon ou depuis la fenêtre de son séjour. Et c'est vrai qu'un des bons moyens de connaître un petit peu les oiseaux qu'il y a autour de la maison, c'est déjà de regarder un petit peu ce qui se passe. Éventuellement, de les nourrir pendant l'hiver, les oiseaux, parce que ça permet de faire connaissance assez rapidement avec les oiseaux les plus communs autour de la maison. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on les voit tous, parce qu'on va nourrir des oiseaux avec des graines, donc on va voir surtout des oiseaux granivores. Les insectivores, on les verra moins. Mais ça peut être quand même une première approche intéressante. On peut aussi leur mettre un abreuvoir qui peut leur servir de bain, surtout s'il n'y a pas de point d'eau à proximité. Mmh. À cette époque-ci, là, c'est très très bien d'avoir un bac avec de l'eau, avec quelques pierres dedans, pour qu'il y ait divers niveaux et que tous les oiseaux puissent trouver leur place. Et quand ils l'ont repéré, au bout de quelques semaines, ça devient quand même très très intéressant aussi.
Alors il y a ça, mais il y a aussi l'aspect comptage, statistique, et puis la connaissance de... Bah oui, moi j'ai un piaf qui vient manger 3 graines et puis prendre son bain, d'accord, mais c'est quoi, il vient d'où, il fait quoi? Ça c'est pas facile, c'est pas évident. Est-ce qu'il existe des applications? Aujourd'hui on a des smartphones qui reconnaissent les plantes, est-ce qu'il y a une application pour reconnaître les oiseaux? Vous savez qu'on est fainéant et qu'il faut que ça aille vite.
Oui, effectivement, il y a une application qui permet de reconnaître les oiseaux par leur chant, par leur cri.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Par photo, ça existe aussi, mais bon, je n'ai pas testé, je peux pas dire quel résultat ça peut donner. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à m'éloigner un petit peu plus de la maison, j'ai acheté le guide des oiseaux d'Europe. Mon premier guide vraiment sérieux, c'était le Peterson. Voilà. Bon, après on évolue, mais bon, ça permet effectivement de bien identifier.
Une petite bible.
Ouais, une petite bible. Après, c'est vrai qu'on apprend à connaître les oiseaux, parce qu'il y en a certains qu'on va voir que l'été, d'autres qu'on ne va voir que l'hiver. Il y a des hivernants, il y a des nicheurs, il y a des migrateurs, il y en a qui font que passer aussi. Et c'est vrai que je le vois sur nos bases de données, quand les gens nous disent qu'ils voient des hirondelles en plein hiver. Bon, on peut leur poser quelques questions quand même, parce que normalement, il n'y en a pas pendant l'hiver. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même connaître un petit peu leurs mœurs et où est-ce qu'ils évoluent, dans quel milieu, etc.
Alors avant de vous recevoir, Jean-Claude Ilissali, hein, on vous le rappelle, membre bénévole actif de la Ligue pour la protection des oiseaux. Évidemment, j'étais faire un saut sur le site de la Ligue en Aveyron. C'est un océan. Une grosse machine hein, quand même en termes de partenariat, en termes d'action sur le territoire, à destination du jeune public, à destination des particuliers, des professionnels, des agriculteurs. Vous êtes vraiment partout.
Mais on essaie effectivement de toucher un petit peu tous les publics. Et puis, bon, le fait qu'on ait une très bonne base de données et qu'on ait pas mal de bénévoles qui l'alimentent par leurs observations, on a à peu près dans les 600 adhérents en Aveyron. Bon, tous ne sont pas des naturalistes. Hein. Il y en a beaucoup qui nous soutiennent parce qu'ils considèrent que les actions qu'on conduit sont louables, légitimes et fortement utiles aujourd'hui. On a été fortement sollicité avec cette base de données et des fois pour des chantiers, par exemple, contournement de Rignac, etc.
Et, ah oui ?
Oui, voilà. Donc on nous dit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a comme espèce là et tout, donc,
ah, c'est ce qu'on appelle les études environnementales,
voilà,
c'est ça ?
Donc voilà, tout à fait, on fait des diagnostics sur la présence ou non d'espèces sensibles. Donc... Déjà, une première extraction de nos bases de données nous permet de voir un petit peu ce qu'il y a et de voir quelle pression d'observation on a sur la zone. Et puis, éventuellement, un de nos naturalistes peut aller sur place, faire des inventaires, y passer à plusieurs moments de l'année, etc. Ah. Et donc, c'est vrai que petit à petit, on nous a aussi fortement sollicité pour intervenir dans les écoles, pour intervenir aussi devant des groupes ou de touristes ou sur des lieux un peu emblématiques, par exemple comme le château de Najac ou autre. Très rapidement, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas répondre à toutes les sollicitations que par du bénévolat. Et donc, on a commencé par embaucher un animateur, et puis un deuxième, et un troisième, et puis des chargés de mission. Et aujourd'hui, on a 5 salariés permanents à la LPO Aveyron. Voilà, avec chacun ses particularités et ses compétences. Mais c'est vraiment indispensable pour mener à bien pas mal de programmes.
Ça ne se limite pas, parce que dans Ligue pour la protection des oiseaux, ça ne se limite pas aux oiseaux. Hein. Les batraciens sont observés aussi, les hérissons, les arthropodes, j'ai vu ça quelque part. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans les arthropodes, je le découvre, hein. C'est peut-être tout un univers.
Voilà, on a effectivement, je dirais, l'émission de la LPO, dans un premier temps, on pourrait croire que c'est sauvegarder les oiseaux. C'est bien ce qui avait été à l'origine de la LPO nationale. Mais très rapidement, les observateurs des oiseaux avaient conscience déjà que sauvegarder les oiseaux en eux-mêmes, c'est pas suffisant. Il faut sauvegarder les milieux dans lesquels ils vivent. Et si on sauvegarde les milieux, automatiquement, on sauvegarde aussi des insectes, des micro-mammifères, des mammifères, et des plantes, etc. Donc, la mission de la LPO, c'est effectivement sauvegarder les oiseaux et de leur milieu. Donc, à la LPO, on a pas mal d'adhérents qui sont des passionnés de papillons, comme on en parlait à l'instant, mais aussi de chiroptères, de chauves-souris, de mammifères, de reptiles, de batraciens. Voilà. Donc on a une diversité qui nous permet effectivement d'avoir une vision assez globale de tout ce qui compose la vie sur le département. Et donc avec notre très grosse base de données qu'on peut saisir le soir sur son ordinateur, sur Faune Tarn Aveyron Lot, on peut saisir toutes les observations que l'on a faites, mais on peut aussi les saisir au fur et à mesure avec une application qui s'appelle Naturalist sur le terrain avec un smartphone. Et à partir de là, on a des gens qui vérifient les données au jour le jour. Et ensuite, on peut faire des extractions, que l'on travaille de façon informatique, et on peut avoir des projections sur des cartes. Donc on peut avoir la répartition de telle espèce sur le département, et on voit qu'elle n'est pas connue sur l'ouest ou le nord, etc. Bon, alors après, suivant l'espèce, on va dire oui, bon, c'est normal qu'elle ne soit pas sur le nord parce que c'est une espèce méditerranéenne, mais des fois, c'est un problème, c'est qu'on n'a pas la pression d'observation sur cette espèce-là ou sur cette famille-là dans un secteur. Et c'est là que quand on dresse un atlas, en 2008, on a sorti l'atlas des vertébrés de l'Aveyron. Donc là, on a les poissons, les mammifères, les oiseaux, les batraciens, etc., les reptiles. Donc là, pour avoir un premier état de cette faune sur le département, on a dû compléter nos cartes en allant faire des prospections ciblées dans certaines zones où une personne n'en avait été, quoi. Mmh. Puisqu'après, soit on découpe le département en carré, soit en commune, mais on se rendait compte qu'on manquait de données et d'observations, tout simplement. C'est vrai que si personne n'y va, on va dire que l'espèce est absente. Et là, il faut faire attention, quoi.
On peut tous devenir à petite, moyenne ou grande échelle partenaires de la LPO. Des gens sont refuge LPO. Ça consiste en quoi ?
Alors, créer un refuge chez soi, ça peut être son jardin. Ça peut être même pour certains son balcon. Puisque certains ont des fleurs, ont des grands pots sur leur balcon, ils peuvent nourrir les oiseaux pendant l'hiver, ils peuvent même mettre quelques nichoirs, des hôtels à insectes, etc. Quand on devient refuge LPO, on nous fournit un petit kit avec des autocollants, avec une affiche pour dire ici c'est un refuge LPO. Et bon, mais le plus souvent, les gens ont leur jardin. C'est des petites surfaces, hein. Mais il y en a quand même pas mal, hein. Plus de 300 refuges chez les particuliers, ouais. Après, il y a des refuges établissements, il y a des refuges collectivités, il y a des refuges entreprises. Bon, là, il y en a un petit peu moins, puisqu'il y en a 37 en tout, je vois. Mais il y en a 325 qui sont chez les particuliers, où la surface est quand même relativement réduite, hein. C'est 600, 800, 1000 mètres carrés. Et là, les gens s'engagent, c'est une charte, donc c'est au bon vouloir des gens, mais à rendre la zone qu'ils ont mise en refuge la plus attractive possible pour la biodiversité en général. Mmh. Bon, pour les oiseaux, mais aussi pour les insectes, etc. Donc à ne pas utiliser de produits phytosanitaires, à laisser des coins d'herbes sauvages, à ne pas tout tondre, par exemple, à planter des espèces mellifères, à éviter les haies, qui ne sont que d'une seule espèce, que de la laurière, que du cyprès de l'élan, c'est, voilà, qui est quelques pieds de laurière, c'est très bien, quelques pieds de cyprès de l'élan, c'est très bien, mais qui est diversifié, c'est quand même bien, bien mieux, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, après, poser des nichoirs, créer une petite mare, par exemple, avoir un abreuvoir pour les oiseaux, et les nourrir pendant l'hiver, voilà. Et puis mettre un certain nombre de nichoirs, parce qu'on pense... Quand on parle de nichoir, on pense de suite mésange charbonnière, mésange bleue, les oiseaux cavernicoles, ceux qui nichent dans des trous. Mais on peut aussi faire des plateformes contre un mur où il y a un petit peu de lierre ou de la vigne vierge. Sur ces plateformes, on met des petits rebords et le merle va pouvoir y nicher facilement. Enfin, on peut faire des abris à chiroptères, des abris pour les chauves-souris. On peut faire quantité de choses très, 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 très diverses, hein, parce qu'il n'y a pas que les nichoirs, mésange... rouge queue, etc. quoi.
Est-ce que dans les actions de la LPO, on parle des abeilles aussi, parce qu'on entend parler aussi d'un effondrement de la biodiversité, que les abeilles ont un vrai rôle à jouer pour la pollinisation, notamment écosystème menacé, une accélération de l'effondrement de la biodiversité. C'est quoi le constat que vous pouvez faire là actuellement? Et puis aussi un mot peut-être sur les abeilles. J'ai rien vu sur les abeilles sur le site de la LPO. Est-ce que c'est en marche, c'est encore autre chose, ou vous avez des partenariats?
Oui, on a des partenariats pour les abeilles. On travaille notamment avec l'OPIE, donc qui est spécialisé sur les insectes, et on a eu des programmes sur les diverses sortes d'abeilles sauvages, avec des recensements sur les toute cette famille, quoi, les guêpes, etc. Voilà, effectivement, on constate comme beaucoup, et on a aussi pas mal de nos adhérents qui ont des ruches, et toutes les difficultés qu'il y a sur les ruches et qu'elles rencontrent avec les produits phytosanitaires, et notamment les systémiques, hein, qui circulent dans toute la plante et qui se retrouvent au niveau du nectar ou du pollen des fleurs. On constate aussi cet effondrement-là, mais tout va de pair, quoi. Nous, ce qu'on a constaté le plus facilement, c'est l'effondrement au niveau des populations d'oiseaux. Et on a les programmes de suivi des oiseaux communs avec le Muséum d'Histoire Naturelle qui fonctionne depuis plus de 20 ans. Là, statistiquement, on montre bien qu'il y a eu un effondrement des oiseaux, notamment des oiseaux des milieux cultivés. Les bruants, les alouettes, les pipites, les pigrièches. Donc là, on a eu un effondrement énorme des populations. Mmh. Et puis moi-même, à mon échelle, il y a des espèces que je voyais couramment il y a 20-25 ans et que je ne vois plus que très sporadiquement aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc cet effondrement, il y est. Et il est à tous les niveaux. Parce que C'est tout un réseau, hein, c'est un puzzle. Toutes les espèces se complètent. Toutes les espèces ont leur utilité dans la nature, même si on ne sait pas forcément la voir aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais les araignées, ça ne sert à rien. » Voilà. Mais je dis non, les araignées, si elles y sont, c'est qu'elles ont leur place. Les frelons, c'est pareil. Ils ont leur place. Les guêpes aussi.
Il n'y a rien en trop dans la nature.
Il n'y a rien en trop dans la nature. Par contre, on a créé pas mal de déséquilibres. Aujourd'hui, on a du frelon asiatique. Bon, mais ça, c'est... Voilà. On a, dans les rivières, on a des mollusques qu'on n'avait pas, les corbicula, qui nous viennent de Chine. Et voilà. On a tout un tas de plantes invasives aussi. Et qui amène des déséquilibres.
J'ai l'impression que le territoire est plutôt protégé quand même en Aveyron, enfin que le département, que notre Ouest Aveyron, on y vit plutôt serein, mais peut-être que je me trompe.
Oui, alors on a la chance que notre département soit traversé par des grandes rivières, hein, le Lot qui traverse donc d'est en ouest dans le nord, l'Aveyron au centre, le Viaur aussi, hein, qui est une très très belle rivière, et puis au sud on a le Tarn, hein, toujours qui coule de l'est vers l'ouest, avec leurs affluents. Du coup, on a quand même des zones très pentues, on a des gorges, etc. Donc, on n'a pas l'agriculture intensive qu'on peut trouver dans le nord de la Haute-Garonne ou dans le Gers, etc. Et du coup, effectivement, ces zones-là sont des zones de refuge pour quantité d'insectes et d'oiseaux et de mammifères. Et on a aussi une agriculture avec beaucoup d'élevage. Et l'élevage est quand même une richesse dans notre département. Et il faut absolument contribuer à le conserver. Et on a tout intérêt à conserver un maximum d'agriculteurs qui ont quand même globalement une sensibilité pour la nature. Il y a bien toujours quelques papes de l'agriculture très intensive. Et du labour profond. Et qui considèrent que toutes les haies, ça les gêne pour passer avec leurs engins. Ouais. Mais on a aussi tout bon nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui ont conscience qu'il faut maintenir des points d'eau, qu'il faut recréer des haies. Et on sait tous les faits bénéfiques des haies sur les cultures. Les gens, souvent, ils voient que les 30 premiers mètres au bord de la haie, il y a moins de rendement. Mais ce dont ils ne se rendent pas toujours compte, c'est que, par contre, au-delà de 20, 30, 40 mètres, les plantes produisent mieux s'il y a des haies. Parce qu'elle bénéficie d'une meilleure couverture par rapport au vent, de l'ombre aussi. Hein. L'ensoleillement est important, mais il faut aussi de l'ombre. Et c'est pareil pour les animaux. Hein. Les animaux, les troupeaux de bovins qui sont sur des parcelles où il n'y a que des barbelés, ben, si on parle avec des vétérinaires, on se rend compte qu'il y a des veaux naissants qui attrapent des insolations, qui ont besoin d'être réhydratés, etc. Quoi. Voilà, donc... Voilà, on a aujourd'hui quand même pas mal d'agriculteurs qui nous interrogent pour dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la biodiversité chez moi. Voilà. Et l'hiver dernier, on a fait un atelier nichoir et on a eu quand même un certain nombre d'agriculteurs qui sont venus parce qu'ils souhaitaient mettre un nichoir à faucon cresserelle, un nichoir à chouette effraie, des nichoirs à insectes, des nichoirs pour les mésanges. On a des arboriculteurs ou des gens qui ont des petits vergers et qui souhaitent mettre des nichoirs parce qu'ils disent « Si j'ai beaucoup de mésanges, ben j'aurai moins de carpocaps, du ver qui rentre dans les fruits, etc. »
Il y a tellement à dire sur les actions menées par la Ligue pour la protection des oiseaux. On n'a pas parlé de la réserve aussi, d'une réserve naturelle que gère la LPO en Aveyron. Et puis de l'ensemble du programme, vous savez, un programme d'action qui est très riche et dense, là, jusqu'au mois de décembre, je crois, des animations sur l'ensemble du territoire. À Villefranche, cet été, c'était tous les lundis. Un rendez-vous nous était donné sur Najac ou dans le coin. Vous êtes intervenu au mois d'avril à Saujac, je crois savoir, autour d'une animation autour des rapaces. Où on se procure le programme? Il est disponible à Villefranche, à l'office de tourisme peut-être? Le site internet, c'est quoi?
Oui, effectivement, on établit tous les 6 mois par semestre un programme de nos sorties, qu'on appelle les rendez-vous nature avec la LPO à Aveyron. Le plus facile, c'est d'aller sur le site internet pour ceux qui sont connectés. Là, on peut trouver le programme des sorties. On peut le trouver aussi à l'office de tourisme, puis dans certaines boutiques. Normalement, on approvisionne les biocoop ou bio, etc. Donc, on propose des sorties sur le terrain. Alors, ces sorties, elles sont ouvertes à tous. Il y en a beaucoup aussi qui permettent d'accueillir les personnes qui ont un handicap. Donc ça, c'est important aussi que tout le monde puisse découvrir la nature. On n'a pas besoin d'être un connaisseur. Il y a souvent, les gens me disent « Oui, mais j'adhérerais bien à la LPO, mais j'y connais rien. Oui. » Non, on peut adhérer à la LPO tout simplement pour nous soutenir. Et puis, si on peut venir participer à une sortie, ben, c'est bien. Hein. Bon, on a des sorties sur le terrain, mais on a aussi parfois des animations en salle, avec des projections de films, des diaporamas. Voilà, donc il faut se tenir informé, voir ce qu'il y a vers chez soi, parce que le département est grand. On a des sorties sur le Nord-Aviron, sur le Sud-Aviron, oui. sur les gorges de la Dourbie ou de la Jonte. Voilà. Et c'est vrai que... Il y a de quoi faire hein, entre l'Aubrac et le Sud-Aviron et l'Ouest Aviron. Il y a pas mal de zones intéressantes aussi à découvrir. Et c'est une occasion. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de Saujac. Voilà, il y aura une autre sortie là, le 3 octobre à Saujac.
Très bien. Au
saut de la Mouline, que j'animerai moi-même.
Toujours autour des rapaces, hein, c'est notre spécialité.
Oui, les rapaces et autres, parce que je connais aussi bien tous les petits passereaux. Mais c'est effectivement, c'est des lieux comme le saut de la Monine, où les gorges permettent d'observer plus facilement les rapaces. Oui. Parce que l'aérologie est un petit peu plus particulière, puisque le relief n'est pas plat. Et bon. Donc les zones qui sont... bien ensoleillée, bien rocailleuse, bon, l'air va se réchauffer, ça va créer des ascendances, et les rapaces aiment bien les rechercher pour prendre de la hauteur et se lever sans effort, quoi.
Voilà. On ne se lasse pas de vous écouter, Jean-Claude Issaly. On le rappelle, vous êtes bénévole à la Ligue de protection pour les oiseaux, naturaliste, passionné de nature, on l'entend, hein, vous le vivez. Le site internet de la Ligue pour la protection des oiseaux, on peut prévenir les auditeurs, c'est un océan, on se laisse vite embarquer parce que vous avez plein de partenariats et puis il y a plein de possibilités aussi, un site très, très fourni en information. On y retrouve le programme des animations et moi je vous lance justement l'invitation pour occuper un espace antenne et nous en dire plus, peut-être une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, une fois par semaine sur l'antenne. Rendez-vous de la LPO sur CFM Villefranche. Vous êtes vraiment les bienvenus.
Merci.
Merci à vous et puis à bientôt, je l'espère, dans ces studios pour nous en faire découvrir un petit peu plus et animer encore plus notre curiosité. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci.
CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.